Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale revient sur la célébration de la Journée internationale de la francophonie et s'intéresse notamment à la table ronde consacrée à la diplomatie culturelle et au multilinguisme.
Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, je déclare ouverte cette réunion exceptionnelle de la francophonie.
C'est donc dans la majestueuse salle du Conseil économique et social des Nations Unies qu'a eu lieu le 20 mars dernier la table ronde sur la diplomatie culturelle et le multilinguisme, animée comme on vient de l'entendre par Mohamed Loulichki, le représentant permanent du Maroc et président du groupe des ambassadeurs francophones. Le diplomate marocain qui, après avoir rappelé que l'OIF rassemble 77 pays qui ont la langue française en partage, n'a pas tari d'éloges sur le mérite du groupe des ambassadeurs francophones de l'ONU qui défend le français en défendant le multilinguisme.
Dans notre travail au quotidien, nous pratiquons par la force des choses beaucoup de diplomatie, peu du culturel et pas suffisamment du multilinguisme. Nous faisons beaucoup de diplomatie car c'est notre métier et notre vocation à représenter nos pays, à défendre nos intérêts nationaux. Mais dans le cadre des Nations Unies, il y a une dimension supplémentaire qui s'ajoute, celle de concilier les intérêts et servir des objectifs communs à toute l'humanité. La paix et la sécurité, le développement durable et la protection des droits humains. Mais la diplomatie n'est pas le monopole des diplomates, elle est aussi l'œuvre d'autres acteurs. Elle est l'œuvre de parlementaires, de partis politiques, des hommes de culture, des académiciens, des musiciens, des acteurs et réalisateurs, de peintres, de philanthropes, du secteur privé, des ONG et de la société civile en général. Chacun apporte son originalité, sa touche, sa sensibilité et sa perception. La diplomatie et la culture ont beaucoup en commun. Les deux cherchent à communiquer, à persuader, à convaincre, voire à courtiser, à séduire, en vue d'obtenir l'adhésion et l'acceptation par l'autre, de recueillir de l'autre une acceptation subtilement induite et non imposée.
Mohamed Loulichki, qui a ensuite invité la ministre camerounaise des Arts et de la Culture, Amatutu Mouna, a partagé des éléments de réflexion sur le thème du jour basé sur l'expérience de son pays.
L'humanité a toujours eu grâce précisément à la diplomatie, des valeurs et espaces de partage et de rapprochement. La diplomatie culturelle est précisément l'art des États à établir entre eux, entre les peuples et les citoyens, des échanges et des relations d'amitié et de coopération fondées sur la paix, la convivialité et l'harmonie. Le classicisme, l'expressionnisme, l'existentialisme, les beaux-arts européens ont légué à la postérité un patrimoine culturel et artistique qui fait la fierté de l'humanité, des musées, des bibliothèques, des expressions artistiques partout dans le monde. L'Afrique, qui ne saurait être en reste, occupe une place prépondérante dans ces échanges et ces fusions culturelles. Et le Cameroun, cette Afrique en miniature, occupe une place de choix dans cette dynamique, dans ce partage universel depuis très longtemps.
Le Cameroun, qui était décidément fort bien représenté à cette table ronde, grâce à la présence du saxophoniste Manu Dibango, qui a mis l'accent sur la contribution que tout un chacun peut apporter.
Nous, artistes, nous sommes là pour, entre les deux, la paix et la guerre, nous sommes là pour créer peut-être ce qu'on appelle le rêve, pour faire rêver. Un artiste, c'est la musique, c'est la peinture. Quand on voit une belle peinture, quelque chose se passe entre la peinture et soi, qui n'a plus rien à voir ni avec la paix, ni avec la guerre, mais qui a à voir avec l'être humain. Et c'est cet être humain-là qui est important dans la vie. Quand on voit un beau tableau, une belle sculpture, qu'on lit un livre, on va ailleurs. Et c'est ailleurs qui motive peut-être nos présences sur cette terre, parce qu'on ne sait même pas pourquoi on est là, on ne sait pas pourquoi on vient de Roumanie, on ne sait pas pourquoi on vient du Cameroun, on ne sait pas pourquoi on vient du Burkina, on est là. Et pendant qu'on est là, qu'est-ce qui peut nous unir, qu'est-ce qui peut motiver, justifier notre présence, sinon les arts. Donc ces arts-là sont au-dessus de la guerre et au-dessus de la paix. Et je m'arrête là parce que je n'ai plus rien à dire. Voilà.
Puis ce fut au tour d'un autre artiste, le réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis, de rebondir et de souligner la particularité de l'Afrique et la difficulté pour les jeunes auteurs de faire un cinéma qui reflète les réalités du continent.
La grande difficulté pour les jeunes cinéastes aujourd'hui à travers l'Afrique, c'est d'abord de trouver des financements sur place pour pouvoir faire leurs films. C'est-à-dire que souvent, les financements viennent des pays européens, viennent éventuellement des États-Unis, viennent d'ailleurs en tout cas. Ce qui veut dire que pour prononcer vos mots, vous devez attendre qu'ils plaisent d'abord à l'extérieur. Ce qui est un vrai souci d'identité. Et ensuite, quand on a réussi à traverser ce long désert, arrive le problème de diffusion, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de salles de cinéma aujourd'hui en Afrique. Et que les nouvelles salles qui ont tendance à s'ouvrir aujourd'hui sont des salles destinées à diffuser le cinéma dominant, qui est en général le cinéma américain. Et quand on parle de langage, je voudrais rejoindre ce que je disais au début, c'est-à-dire que ce qu'on espère aujourd'hui, c'est non pas un cinéma africain qui soit à l'image du cinéma américain, c'est-à-dire qu'il reprenne, pour des raisons économiques finalement et d'efficacité, un langage qui ne lui appartient pas, mais qu'une multitude de langages différents réussissent à s'exprimer. Alors sans doute qu'il faut mettre en place, à l'intérieur d'une sorte de liberté, à l'intérieur de chaque pays, en tout cas des zones de protection, pour permettre à des langages particuliers de se développer. Je crois que c'est de l'intérêt de tout le monde de ne pas être submergé par un seul langage dominant.
Autre contribution, celle de Peter Lansky-Tiefenthal, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de l'information et de la communication, mais aussi de la diversité linguistique.
L'importance du multilinguisme n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Nous sommes tous conscients que comprendre et parler plusieurs langues, c'est mieux comprendre notre monde. Et c'est aussi être en mesure de contribuer aux défis des sociétés. Une coopération autour de valeurs communes ne peut que nourrir ce dialogue, la compréhension mutuelle, l'innovation et la créativité. Elle peut nous aider à construire des sociétés plus justes et plus inclusives. J'invite donc l'ensemble des États membres et nos partenaires à mettre en valeur les rôles multiples des langues pour la formation de l'esprit et la construction d'une citoyenneté mondiale. La diversité linguistique est une condition sine qua non pour une coopération international où chacun peut exprimer directement et fidèlement sa pensée. Il est essentiel de se souvenir que nous existons dans un monde multiculturel où les langues que l'on parle, lit ou écrit affectent notre façon de penser et notre façon d'agir.
Une journée internationale de la francophonie qui ne pouvait être célébrée sans la présence de Philippe Savadogo, ancien ministre burkinabé de la Culture, cofondateur du FESPACO et actuel représentant permanent de l'OIF auprès des Nations Unies à New York.
Nous devons aller au-delà d'interprétations et de traductions qui puissent ressembler à ce texte qui a été écrit ici il y a 70 ans, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, où en grande partie, j'ai quelquefois tiré la sagesse. Mais la première sagesse, c'est celle de ma grand-mère qui me disait tout simplement que si nous voulons aller loin, il faut marcher en équipe, il faut marcher avec tout le monde. Et je crois que la traduction en 270 langues du monde, dont 6 langues africaines, ne peut que me réjouir. Le Wolof, le Bambara, le Pular et d'autres langues africaines. Pour nous, cette journée revêt cette importance capitale parce que finalement, 77 pays du monde, presque le tiers des Nations Unies, essaient d'utiliser le français pour exister en termes de valeurs culturelles, mais aussi en termes d'idéologie.
La table ronde a également permis d'entendre Vibeke Jensen, directrice du bureau de l'UNESCO à New York, qui a souligné les nombreuses valeurs que partagent son organisation et l'OIF.
Aujourd'hui, notre message est finalement très simple. Dans un monde interconnecté, interdépendant, la diversité culturelle et le multilinguisme sont essentiels pour la paix et le développement. Ce message a pris une force particulière en 2013 quand l'UNESCO a lancé la décennie internationale du rapprochement des cultures. Montrer que la diversité culturelle est une force de paix, de développement, de créativité et d'innovation. C'est la clé des sociétés de demain et c'est le sujet du rapport mondial sur l'économie créative publié l'année passée par l'UNESCO et le PNUD. Cette diversité doit s'appliquer partout, notamment à l'UNESCO, où la parité des deux langues de travail est un principe fondamental, quelles que soient les contraintes financières.
Autre intervention, celle de l'ambassadrice roumaine Simona Miculescu, qui est revenue sur le projet des ambassadeurs Chante pour la paix, mené avec ses homologues du Canada, de Cabo-Verde, du Costa Rica et de Nauru. Projet qui a débouché sur l'enregistrement d'un CD dont les bénéfices sont reversés à la Fondation amicale des ambassadeurs qui aide des jeunes à se réunir à l'ONU à New York.
Je dois clarifier quelque chose du début. On est considérés les meilleurs ambassadeurs des chanteurs et les meilleurs chanteurs des ambassadeurs. Donc, quand l'idée de ce CD m'est venue, j'ai été inspirée par les sages paroles de Hans Christian Andersen, qui disait d'une très belle manière « Là où les mots échouent, la musique parle ». Cet album, je dois avouer, est un rêve devenu réalité pour moi, parce que depuis mon arrivée à New York, j'avais l'intention de trouver quelques ambassadeurs pleins de talent pour transmettre le message de la paix d'une manière différente qu'avoir un discours au podium de l'ONU. Nous savons tous que la diplomatie et la musique peuvent créer des synergies parfaites dans la diffusion de l'esprit de la paix. Et je dois dire que je suis très heureuse et reconnaissante que j'ai trouvé d'excellents partenaires dans cette entreprise très courageuse. Mes distingués collègues, les ambassadeurs du Canada, l'ancien ambassadeur du Cap-Vert, l'ambassadeur de Costa Rica et l'ambassadeur de Nauru. Donc ce CD est un modeste exemple de créativité. Et c'est aussi une passionnée tentative de célébrer d'une manière différente les valeurs universelles de l'humanité dont la paix, bien sûr, est la plus précieuse. Tout en écoutant ces chansons, tous les ambassadeurs présents dans cet album musical espèrent que le public garde à l'esprit le fait que la paix commence par et avec chacun de nous.
Au final, et c'est le cas de le dire, la table ronde a connu un franc succès et a permis d'illustrer la richesse des actions menées grâce à la diplomatie culturelle et au multilinguisme, tant au sein de l'ONU que de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà, et c'est ainsi que se referme Escale, ce magazine de la Radio des Nations Unies qui était consacré cette semaine à la diplomatie culturelle et au multilinguisme, et ce dans le cadre de la célébration le 20 mars de la Journée internationale de la francophonie. Une émission préparée et présentée par Jérôme Longuet avec l'aide et la complicité de Rebecca Mundio. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.